Good Morning Business, le débrief de la matinale.
Vous n'allez pas être déçus par le débat qui va suivre, parce qu'ils sont tous contre Macron, y compris Jean-Philippe Cartier, le président de la Suisse. Wilfried Galland, directeur stratégie chez Montpensier Finance, Emmanuel Lechypre et Marie-Cœur de Roy. Non mais quand je dis contre Macron, contre le plan logement concocté par le gouvernement, on ne comprend pas bien ce qui se passe. Marie, rappelez-nous ce qui se passe.
Alors, ce qui se passe, c'est qu'on attendait des mesures d'urgence pour répondre à la crise du logement, qu'on avait un CNR logement, un Conseil national de la refondation qui devait faire des propositions structurelles, plus des mesures d'urgence. On a repris le bébé à Matignon en nous disant ça ne sera pas le ministère du logement, ça sera Matignon, parce qu'on a pris conscience de ce qu'était la bombe sociale du logement. Hier soir, Matignon nous annonce les mesures qui seront annoncées tout à l'heure par Elisabeth Borne, et il n'y a absolument rien qui répond à cette crise. D'abord, sur les mesures d'urgence.
C'est pire, il y a même...
C'est pire.
Il y a des économies.
Le prêt à taux zéro, souvenez-vous. Ah oui. L'ensemble des acteurs du logement neuf nous disaient il faut non seulement prolonger le dispositif, mais il faut en plus l'étendre. Alors oui, il est prolongé jusqu'en 2027. Mais attention, exit les constructeurs de maisons individuelles. Juste pour info, quand j'ai contacté le patron du pôle habitat de la Fédé du bâtiment, il me disait, on oublie quand même que la moitié des ventes de logements neufs en France, ce sont des maisons, ce ne sont pas des appartements dans des logements collectifs, d'accord ? Juste on dit ça, on est tombé à 84 000 ventes de maisons. C'est un niveau que la Fédération du bâtiment n'avait jamais connu, jamais, y compris dans les années 90, jamais. Donc on est dans une véritable crise avec des faillites qui vont venir, et très sincèrement, c'est assez grave. Moi, j'avais le patron de la Fédé des constructeurs de maisons individuelles, Damien Errant, au téléphone hier soir. Je lui dis, mais là, vous êtes en train de me dire que le gouvernement tire sur l'ambulance. Il me dit, non mais attendez Marie, c'est plus l'ambulance là, c'est le corbillard.
300 000
suppressions d'emplois. Le patron de la Fédé des promoteurs immobiliers dit, c'est plus 100 000, c'est plus 150 000, c'est 300 000. Et attention, on parle du secteur du bâtiment au sens large, mais on parle pas de l'incidence sur l'emploi au sens large aussi, sur la mobilité professionnelle, sur les entreprises qui vont s'implanter dans des endroits et où ils ont personne à loger. Enfin, il y a une vraie problématique. C'est vrai que là, cette semaine, ça devient...
Deuxième mesure, le Pinel.
Depuis 1986, Meignerie.
Ça fait souffler sur le plateau.
Ouais, bah c'est ça. On avait un dispositif d'aide à l'investissement locatif dans le neuf. Alors j'insiste, je prends un petit peu le temps parce que oui, c'était une carotte fiscale, mais à la clé, le propriétaire bailleur pratiquait des loyers qui étaient encadrés, plafonnés au niveau des logements intermédiaires. Ça voulait dire que pour moi, qui suis locataire, je le dis, ça me permettait moi de trouver un logement avec des loyers moins élevés que ceux du marché. Donc on créait une offre locative moins chère.
Financée par le privé quelque part.
Bah là, on nous dit non, stop. Pour la première fois depuis 40 ans, on nous dit fin 2024, le Pinel, ça s'arrête. Alors, on veut bien que le Pinel s'arrête. Il n'y a pas de problème. On peut débrancher les aides. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ça coûte de l'argent. On verra ce que ça rapporte. Mais ça coûte de l'argent. Mais dans ces cas-là, on a une politique de relance de l'offre. On crée des logements.
Et là, sur le foncier, rien.
Ça faisait partie des propositions du CNR. Et donc, il y avait deux mesures sur la libération du foncier privé. C'est quand même l'alpha et l'oméga pour faire baisser les prix du neuf. C'est-à-dire, inverser la fiscalité sur le foncier privé. Aujourd'hui, vous êtes propriétaire. Vous avez tout intérêt à garder votre terrain le plus longtemps possible pour pas être fiscalisé, alors qu'il faudrait le libérer, ce foncier. Et puis deux, il y avait une mesure pour encadrer les prix de sortie du foncier. Alors on peut dire ce qu'on veut, mais on encadre les loyers, on pourrait bien encadrer les prix du foncier, intérêt général.
Oui. Jean-Philippe, vous qui avez vos entrées à Bercy, alors
faites quelque chose, Jean-Philippe.
Alors faites quelque chose.
Alors déjà, c'est compliqué de passer après Marie, parce qu'on est parfaitement alignés. J'insiste lourdement sur ce point. Au regard de mes entrées, il est évident que je ferai passer un maximum de messages, et j'ai lu ça hier, j'étais pas plus informé que d'autres, que concernant le cellier, c'est une énorme absurdité. On a besoin de logements en France. Le Pinel, il y en a toujours eu en France, et le dernier Pinel qui n'est pas remplacé, c'est une hérésie. Le particulier français, il aime l'immobilier, il aime le financer.
Mais oui.
La déduction fiscale, elle fait partie du jeu, et c'est un système qui fonctionnait très bien, qui crée de nombreux logements. Aujourd'hui, comme je le disais en introduction, les promoteurs souffrent énormément, et c'est toute la chaîne de valeur, toute la filière qui morfle. Il y a une agence immobilière sur trois qui va déposer le bilan, c'est une certitude absolue.
Mais qu'est-ce qui n'a pas été compris au niveau du gouvernement?
Comme on l'expliquait en préambule, la problématique, c'est pas d'être contre Macron, c'est de se dire que, de manière idéologique, Macron, c'est pas un fan de l'immobilier.
Il aime pas l'immobilier, il a fait les filles pour remplacer.
Moi, c'est ce que j'ai pu parfois lui reprocher, malgré certaines choses que j'apprécie dans le quinquennat, un peu plus maintenant, c'est le fait d'être toujours porté sur l'innovation. Donc là, on est en train de vous expliquer tous les matins, et souvent sur votre plateau, qu'il y a des aides de partout qui partent dans l'innovation, notamment la BPI qui accompagne tout ça pour des tas de boîtes dont 7 sur 10 ne verront pas l'ombre d'une issue ou d'une sortie économique dans les 2 à 3 ans. Et par contre, tous les mécanismes, je parle même dans l'hôtellerie-restauration, dans le tourisme, dans des tas de choses, où finalement on va bientôt faire 10% du PIB et avoir 3 millions d'emplois non délocalisables. Et dès que tu montes quelque chose et que tu montes une aide, t'as zéro. Donc je pense qu'il faut sortir de ça. La France, c'est encore un certain nombre d'emplois importants figé qui fonctionne. L'immobilier en fait partie. La promotion immobilière, c'est un secteur énorme dans ce pays. Moi, j'en ai cofinancé énormément avec un 2-3IM dans lequel je suis actionnaire. On en finance énormément. Et j'ai appelé pas plus tard qu'hier le président d'un 2-3IM qui me dit c'est à l'arrêt. Complet. Voilà. Donc, je verrai, je vais vous apprendre quelque chose. Je croise le ministre dans quelques heures et je vais me permettre de lui répondre. Enfin, en tous les cas, lui transmettre ce qu'il sait plus ou moins déjà. Mon point de vue sur le sujet,
ça n'aura peut-être qu'un impact.
Bah, on verra, on verra 17h30.
Et inefficace, mais en tous les cas, non, je ne crois pas.
On verra 17h30.
Mais je crois que l'idée de Macron est clairement, voilà. Et je pense qu'il faut un peu plus, il faut y revenir. Il faut reposer le problème de l'immobilier autrement que celui qui a été annoncé ce matin et qui va être annoncé ce soir.
Emmanuel, on prend le plan, on le jette et on recommence parce que là, on en est là, hein.
Bah après non c'est plus enfin c'est plus possible. Alors après ils peuvent toujours rectifier le tir au vu de des réactions
c'est ce qu'attendait le rapporteur ce matin.
Ils sont quand même extrêmement violentes. Alors je veux bien entendre que il y a une partie des aides qui ont profité, que les promoteurs ils sont bien gentils dans les années où ça marche bien, etc. Ils se font quand même énormément d'argent et puis ils viennent pleurer dès que ça va pas bien. Ça on peut l'entendre, mais pas au niveau de la crise actuelle, si vous voulez. Là on est pas dans une crise,
c'est pas le bon timing.
Cyclique. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des accélérations, ralentissements, etc. Là, on est devant un mur. Mmh. Et ce que ne comprend pas effectivement Emmanuel Macron, c'est que quand même, l'alpha et l'oméga, on peut dire ce qu'on veut, c'est qu'il faut construire davantage, puisque vous pouvez après prendre le problème par n'importe quel bout, il faut construire davantage, parce que, et c'est là où Emmanuel Macron fait une erreur sans doute d'analyse majeure, c'est que il conçoit, lui, le patrimoine immobilier sur un plan finalement financier, ouais, d'investisseur. Ouais. Le sujet, c'est pas ça, c'est que les Français ne peuvent plus aujourd'hui se loger. Or, le logement, encore une fois,
c'est pas un produit comme un
le
autre.
Seul sujet, c'est le seul sujet qui coche toutes les cases, y compris pour un politique. C'est-à-dire, vous changez la donne sur le marché du logement, vous changez la vie quotidienne des Français. Ouais. Vous créez des emplois qui sont des emplois non délocalisables.
D'ailleurs, il y a beaucoup d'emplois qui sont non pourvus parce qu'il n'y a pas de logement.
Mais bien sûr, qui sont des emplois dans toute la France. Vous améliorez, on nous fait tout un truc sur l'inégalité, les chances à l'école, etc. Si vous améliorez l'habitat, vous améliorez les chances de réussite scolaire des gamins qui sont aujourd'hui mal logés. Vous réduisez l'insécurité parce que dans les quartiers qui sont finalement bien aménager, vous avez moins d'insécurité. Donc, vous cochez toutes les cases. Ni Sarkozy, ni Hollande, ni Macron. Et Macron, ça avait très mal démarré, rappelez-vous, avec l'affront qu'il avait fait à Jean-Louis Borloo quand il avait fait son rapport, etc., qu'il l'avait balayé d'un revers de main. À ce moment-là, ça servait à rien. C'est quand même fabuleux de la part d'un président de la République qui nous promet qu'il a changé, qui va gouverner différemment, qu'il écoute. C'est-à-dire que même les instances officiel qu'il crée pour débattre, conseiller, etc., on n'en tient finalement même pas compte. Donc là, c'est quand même... Plus on avance, plus c'est pire, quoi.
C'est d'autant plus absurde, Wilfried, c'est que la baisse des subventions là qui sont annoncées ne va pas se traduire par une augmentation de l'offre. Donc les prix vont à peine baisser.
Ils vont pire, ils vont même continuer à augmenter dans l'ancien. Ben c'est-à-dire que la baisse sera encore plus minime parce qu'il va y avoir un rapatriement de la demande sur l'ancien. Ben ça va encore plus se figer, en fait.
Moi, ce qui me frappe beaucoup, alors beaucoup de choses ont été dites avec une passion exceptionnelle.
Et du talent.
Et du talent, bien sûr. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que ce secteur du logement, c'est un peu parfois le miroir des lâchetés financières. C'est-à-dire qu'en fait, depuis des années, au lieu effectivement de favoriser la création de logements, au lieu de libérer l'offre, on a en fait accumulé des normes, de plus en plus de normes, de plus en plus d'aides compensant les normes, avec comme toile de fond de dire de toute façon, l'environnement financier qui est de plus en plus favorable, les taux qui sont de plus en plus bas et des injections de liquidités de plus en plus importantes, finalement masqueront tout ça et ça va bien se passer. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que depuis un an, on a une augmentation phénoménale des taux d'intérêt, une restriction de l'environnement de crédit, un durcissement des conditions financières absolument exceptionnelles, et que là, effectivement, quand on a retiré tout ça,
on
se rend compte effectivement de toutes les lâchetés qu'on a eues jusqu'avant. Et là, on se retrouve face à une situation qui est objectivement extraordinairement complexe, avec des engagements financiers qu'on le voit, qui ont été pris de façon très claire en disant on doit réduire beaucoup de choses, et puis sur le fait qu'on n'est plus aidé d'un point de vue financier. Il faudrait peut-être aussi se retourner vers les banquiers centraux pour dire, à un moment donné, peut-être qu'on est allé beaucoup trop loin, ça fait longtemps qu'on en parle sur ce plateau, beaucoup trop loin dans la restriction des conditions financières pour une économie qui ne peut plus le supporter. On ne peut pas supporter aujourd'hui des taux à 3,75% en zone euro, c'est trop cher. C'est tout simplement...
Encore une fois, en plus, la problématique du prêt à taux zéro, c'est vrai que quand on avait des taux d'intérêt qui étaient à
1%, proche de zéro, ouais.
Bon, c'était pas fondamental, c'était pas très important.
Et ça coûtait pas très cher.
Là, quand vous avez effectivement des taux qui sont à 3,5, 4,
c'est fondamental et ça coûte très très cher.
Là, vous avez quand même un double effet restrictif, quoi.
Et puis attention en fait sur ce que dit Wilfried, enfin effectivement, la Banque centrale, elle est au milieu de tout ça, c'est-à-dire que la hausse des taux aujourd'hui, ça va en plus compromettre le projet d'Emmanuel Macron, puisque son idée, c'est de dire, je réduis l'investissement locatif pour les propriétaires particuliers, mais je vais essayer de favoriser le retour des institutionnels sur le résidentiel. Or, aujourd'hui, les institutionnels, dans ce contexte de taux, ils n'ont aucun intérêt à aller investir dans le résidentiel, qui plus est sur le logement intermédiaire avec des loyers capés. Ils ont beaucoup plus d'intérêt à aller investir ailleurs.
Juste Marie, après on va parler du pétrole. Michaël Nogal, qui était avec nous tout à l'heure, qui est le co-animateur du Conseil national de la refondation, c'est pas facile là comme métier aujourd'hui, forcément. Il espérait que c'était une première étape et qu'il allait avoir autre chose, peut-être même dès ce soir. Non.
Bah, a priori, non. Alors après, c'est vrai que moi j'ai eu des acteurs du secteur au téléphone qui typiquement me disaient, c'est pas possible, c'est trop nul, en gros, c'est trop mauvais. Et il faut qu'elle ait des surprises à nous réserver tout à l'heure. Et notamment sur cette fameuse question du foncier privé et la fiscalité autour du foncier privé. On verra bien.
Il ne savait pas, c'est que le coût budgétaire n'est pas énorme là-dessus. Ouais.
Ce qu'il ne savait pas, c'est que Jean-Philippe Cartier voyait Bruno Le Maire.
Exactement.
Comme je vous l'ai dit, ça ne changera strictement rien. Pour autant, la seule chose qu'il faut tenir comme conclusion de ce qu'on se dit, c'est qu'il faut un après-Pinel, c'est obligatoire. Absolument obligatoire.
Allez, on va parler du pétrole, puisque les pays de l'OPEP+, sont parvenus à un accord pour baisser leur production. Mais enfin, c'était quand même assez cafouilleux, puisque finalement, c'est l'Arabie Saoudite qui va quasiment porter à elle seule la baisse de la production. N'empêche que c'est un engagement sur 2024 et que ça a pas mal convaincu Alexandre Andler, qui était avec nous tout à l'heure de chez Kepler.
On rentre dans une période de l'année où la demande de pétrole devrait être au plus forte. Alors que les stocks pétroliers sont au plus bas, effectivement, l'Arabie Saoudite, qui vient enlever 1 million de barils par jour de production supplémentaire au mois de juillet, a pour eux, c'est principalement pour stopper la baisse. Parce qu'aujourd'hui, les positions vendeuses sur le pétrole sont au plus haut depuis 2011. Donc cette baisse de production s'adresse à ces spéculateurs qui parient sur la baisse des prix du pétrole.
Wilfried, on est autour de 72 $ le baril. L'objectif, c'est de le faire remonter vers 90. Là, disait Alexandre Andlauer, on essaie juste qu'il ne baisse pas. On n'en est pas à essayer quand même de le faire remonter.
Oui, parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que fondamentalement, le pétrole, c'est un marché de demande. Ce n'est pas vraiment un marché d'offre. Et donc, lorsqu'on a des craintes sur la croissance mondiale, il est extrêmement dur de stopper la baisse. Et ça pose énormément de problèmes, à la fois d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue fiscal pour un certain nombre de pays. C'est vrai que le seuil de 80 $ allait bien à beaucoup. Là, on s'est enfoncé très nettement sous ce seuil-là. L'Arabie Saoudite, on va dire, remplit son rôle de leader là-dessus, mais on voit qu'il y a vraiment pas de, cohérence ensemble. Le pétrole aura beaucoup de mal à remonter si on ne remonte pas les perspectives de croissance de l'économie mondiale. Ça peut se faire peut-être avec la perspective, comme je vous disais tout à l'heure, d'une reprise chinoise plus importante. On a eu des éléments vendredi qui allaient plutôt dans ce sens. Et là, effectivement, ça pourrait effectivement être une véritable traction. Si on n'a pas ça, ça sera très très difficile d'avoir une remontée des prix du pétrole durable.
Et même le chiffre aussi, les prix du pétrole ne remontent pas durablement, bah, c'est pas une très bonne nouvelle pour la planète et l'écologie, quelque part. Hein. C'est pas un bon signal.
Bah, on voit bien que la fourchette magique pour l'OPEP, c'est 80-90 $ le baril. Parce que à ce prix-là, finalement, ça maintient quand même leurs recettes et donc ça maintient l'équilibre de leurs finances publiques. Et c'est un prix qui, effectivement, n'est pas assez élevé pour dissuader massivement la consommation de pétrole et donc encourager massivement à la transition vers d'autres énergies.
Donc, ça nous maintient dépendants.
Oui, absolument, on comprend bien leur intérêt. Après, moi je pense que, alors c'est pas que un marché de demande, hein, c'est quasiment toutes les matières premières, c'est l'offre qui fait les prix, c'est pas la demande. Hein. C'est-à-dire que
pas sur le pétrole.
Un peu moins sur le pétrole, mais la réalité, c'est quand même ça. C'est qu'on a connu des périodes de croissance forte avec des prix de matières premières faibles et des prix de croissance très faibles avec des prix de matières premières très élevés. Donc, c'est bien que c'est quand même le cycle de l'offre qui joue. Et ça joue peut-être un peu moins sur le pétrole, mais ça joue aussi. Donc, à court terme, Wilfried a raison. C'est-à-dire, si il y a effectivement la demande chinoise...
Non, mais à long terme.
Pas à long terme. Il y a qu'à la raison. Le fait qu'on ait investi deux fois moins qu'il qu'il aurait fallu dans les infrastructures pétrolières depuis 10 ans, c'est quand même quelque chose qui va maintenir les prix à un niveau assez élevé. Donc les 10, 20, 30 dollars le baril qu'on peut avoir connu, ça non. Après, oui, à court terme, mais là, vous verrez que si la demande chinoise repart, repart rapidement, ça remontera très vite.
Moi, je suis beaucoup un expert, mais il y a un point que tu évoquais. Il y a aussi la différence entre la problématique russe actuelle. Enfin, je pense que les Russes ont beaucoup plus besoin de vendre du pétrole que l'Arabie Saoudite, et je pense que ça crée une dissension absolument colossale dans les discussions actuelles.
Les Russes et les Nigérians.
On est d'accord, parce que les Russes veulent financer leur guerre, ils ont besoin de vendre du pétrole. Donc, je pense que ça crée aussi une divergence importante.
Alors, il y a un sujet, par contre, Jean-Philippe, où vous êtes expert, c'est l'emploi. Vous avez vu qu'il y a un sujet plein emploi qui va arriver.
J'en ai des missions ce matin.
Mais oui, il y a un sujet emploi qui va arriver sur le dossier, sur le bureau du gouvernement, sur le RSA, et conditionner le RSA à notamment 15 à 20 heures, soit de coaching, soit de stage dans une entreprise, soit travail, vous en pensez quoi ?
Je voudrais pas paraître trop radical ce matin, mais j'en pense quoi ? Je sais pas trop. Non, mais dans le sens où j'ai lu, comme vous, je regarde, je pense que le RSA, c'est 2 millions de personnes qui sont RSA, si je dis pas de bêtises, c'est structurel.
Et au bout de 7 ans, il y en a seul un tiers.
Oui, ça bouge pas. C'est un chômage structurel compliqué. Ouais. On veut les remettre, je crois que c'est l'objectif de France Travail, de quasiment les réintégrer à Pôle emploi, devenant France Travail, de les accompagner mieux. Moi, j'aime pas tous les trucs où on dit faut mieux leur parler, faut plus les voir, faut un contrat de confiance. Je pense, on regarde notamment dans le secteur dont on parle souvent, d'hôtellerie restauration, où il y a une pénurie absolue, je pense qu'il faut remettre les gens au travail. Donc je pense qu'un certain nombre de gens, il faudrait peut-être un peu, pardonnez-moi,
là, vous avez des gens qui sont parfois très très loin.
Je peux tout entendre. Il y a aussi des problèmes de logement, il y a plein de sujets. Pour autant, je pense qu'il y en a quand même un certain nombre de milliers, il faut faire très attention, c'est un sujet, vous le dites, c'est dangereux. Mais en l'occurrence, je crois qu'il y a un certain nombre de gens, notamment des jeunes que moi je reçois régulièrement, ou qu'on paye très correctement dans des tas de secteurs. Faut-il aller en Bretagne ? Il ne faut pas aller au Burkina Faso. Faut-il aller en Bretagne, dans les Alpes, dans des endroits assez charmants aussi, dans les Pyrénées ou sur la Côte d'Azur. Mais je pense qu'il faut imposer un peu plus aux gens, en tous les cas peut-être à une classe d'âge, d'aller travailler. Si on veut, moi je suis prêt à recruter des tas de gens RSA aujourd'hui, 15, 20 heures, 30 heures. J'en prends 150 demain matin. Voilà, s'ils veulent travailler dans des métiers de la restauration, du service, de la réception, de n'importe quoi, on en a besoin absolument partout. Donc je pense qu'il faut être un tout petit peu plus radical sur ce sujet, sinon ça ne va pas servir à grand-chose.